Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Sinon, sur de la capitale, direction Est, léger ralentissement dans le secteur du Galerie de la Capitale.
Ça allait moins bien dans le cas de la circulation de Denis Coderre. J'ai vu à la télévision. Il a fait un enchaînement, mais il s'en est très bien tiré. Il avait l'air top shape, il avait un grand sourire et on est content de le garder avec nous autres pour qu'il puisse prendre la relève de Jean Charest. Éventuellement, si c'est pas Joël Lightbound, mon chum Joël, ça va être Denis Coderre. Je te mets un petit deux là-dessus. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, salutations.
Salut tout le monde, vous en bien?
Oui, as-tu l'impression que Denis Coderre, après sa remise en forme, va être disponible pour la chefferie du Parti libéral? C'était pas dans nos sujets, mais je te le soumets quand même.
Ben c'est ça, j'ai vu ça passer. En tout cas, je souhaite un bon rétablissement. Ben, je vois qu'il va bien, mais je pense que l'étoile politique de Denis Coderre est pas mal... Elle, par exemple, elle a pas survécu à 2021. Là, mettons que j'ai l'impression que sa défaite électorale a été quand même assez cinglante là, contre Valérie Plante. Puis il sait très bien que s'il s'en va au PLQ, il est pas mal garanti d'être à l'opposition, pareil, d'une manière ou d'une autre. Puis ça, c'est sans oublier que son image est pas tant favorable à l'extérieur de Montréal, même là. Fait que je pense pas qu'on va le revoir au PLQ. Il y a plusieurs autres noms, mais pas le sien.
Faudrait qu'il soit patient à plein. Ça, c'est peut-être pas nécessairement sa vertu première. Puis là, en plus, il l'est depuis un bout de temps. Effectivement, mais moi, j'ai l'impression que ça prend un virage plus centriste, là. Puis, ça pourrait représenter ça. Denis Coderre, jamais été, justement, il se pognait contre Valérie Plante, qui, elle, est une progressiste dans les extrêmes. Écoute, on a assez de matériel, on va lâcher les libéraux provinciaux, on va aller au fédéral avec les grèves dans la fonction publique. J'entends parler de ça depuis un bout de temps, mais j'ai pas eu les détails. Peux-tu nous donner un peu un portrait de la situation? Ça commence quand? Ça touche qui?
Ben, en fait, ça touche qui? Ça touche tout le monde, mais ça touche surtout qui va y prendre part, en fait. Là, c'est ça, c'est qu'il y a pas loin de 150 000 employés de la fonction publique fédérale qui pourraient tomber en grève ce mercredi à minuit.
Okay.
Donc, c'est pas rien. Puis c'est l'essentiel là, de la... ce qu'on appelle l'AFPC, ou dans ce cas-ci, l'Alliance de la fonction publique du Canada, qui représente vraiment l'essentiel du corps des fonctionnaires, qui est inclus là-dedans les 35 000 employés de Revenu Canada, qui est quand même très important. Fait que,
juste au moment de renvoyer des rapports d'impôts, puis d'attendre notre retour, dans bien des cas,
Oui, ben en fait, je te dirais que, oui, on pense aux impôts, parce que là, c'est les 35 000 employés qui sont carrément touchés, donc le syndicat des travailleurs de l'impôt, là, c'est vraiment eux qui vont défrayer la grève. Mais sinon, si on regarde les autres composantes du gouvernement qui vont être affectées, ça risque d'être assez lourd là au niveau de ce que ça va présenter en coût si jamais la grève va de l'avant, parce qu'il y a aussi les passeports qui pourraient être ralentis. On se souvient, l'année dernière, c'était déjà pas fameux.
Non, on a de l'avance là-dedans. On peut se le permettre.
Puis, il y a aussi des dossiers d'immigration qui pourraient être compromis par rapport à ça. Puis, les déclarations de revenus, puis la réception. Parce que l'affaire, c'est que pour l'instant, l'Agence de revenus du Canada, ils sont conscients qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait une grève qui soit déclenchée et que ça l'affecte la production, ou du moins le traitement des déclarations d'impôts. Mais ils ont toujours, pour l'instant, ils refusent de repousser, en fait, la date où est-ce que vous devez livrer vos déclarations. Donc, c'est encore fixé pour le 1er mai, peu importe ce qui arrive. Mais par exemple, vous risquez de recevoir vos crédits d'impôt et tous les autres avantages liés au REER et au CELGAP ben en retard, malheureusement.
OK. Mais en santé, c'est encore plus préoccupant. Hein? On sait que le gouvernement fédéral est très impliqué en santé. C'est une blague, mais pour vrai, il y a Il y a plus de 10 000 fonctionnaires. J'ai jamais trop compris ce qu'ils faisaient. Je comprends qu'il y en a qui approuvent des médicaments, là, mais souvent, c'est des études auto-fabriquées dans les pharmaceutiques. Je dirais que de ce côté-là, peut-être que c'est quasiment une bonne affaire. Ils perdent leur salaire, right, pendant qu'ils sont en grève. Mais sinon, à part ça, dans la fonction publique fédérale, qu'est-ce qui pourrait affecter les contribuables?
Ben, c'est carrément le coût des revendications. Ouais. Parce que là-dessus, il en demande pas mal. Il demande, on parle d'une augmentation salariale qui est sans précédent. Carrément, là, on parle d'une augmentation salariale qui est revendiquée de plus de 30%. C'est quand même assez énorme. Et t'as aussi l'ensemble des autres avantages non salariaux qui sont revendiqués par la FPC.
Ouais.
Puis ensemble de ça, dans le fond, toutes les augmentations plus les avantages non salariaux, le montant, ça viendrait à 9,3 milliards sur 3 ans que ça nous coûterait aux contribuables pour faire vivre, en fait, là, encore plus grassement les fonctionnaires. Mais moi, tu sais, quelques-uns de ces fameux avantages non salariaux qui ont été peu mis de l'avant par les syndicats dans les médias, vous comprendrez. Ils demandent, entre autres, une bourse d'éducation pour les personnes qui se font mettre à pied qui va jusqu'à 17 000 $. Donc, dès que vous êtes un fonctionnaire fédéral, vous perdez votre job, on vous paye un bac. C'est carrément ça qu'on est en train de dire.
Mais de toute façon, ils perdent jamais leur job. C'est bien une farce monumentale, ça. Ils perdent jamais leur travail, des fonctionnaires. Encore moins au fédéral.
C'est pas juste ça. C'est pas comme s'ils travaillaient bien fort non plus. Ben, en tout cas, il y en a qui travaillent fort, mais la majorité, là, il y en a beaucoup qui... mettons qu'ils profitent beaucoup de leur congé. Puis un exemple que je te donne là-dessus, dans les autres avantages, ils demandent une augmentation des congés payés pour obligation familiale de 37,5 heures à 75 heures par an, donc le double essentiellement. Ils veulent l'accumulation de 4 semaines de vacances automatiquement après 4 ans de service plutôt qu'après 7 ans de service. Donc ils veulent des avantages qui sont même pas... qu'on n'a pas dans le privé, là, je tiens à rappeler.
Moi, d'emblée comme ça, des vacances... Puis en plus, c'est bon pour la productivité. L'affaire, c'est qu'il faut toujours penser qu'il y a du monde dans le privé qui paye ça.
Ben oui.
C'est indécent, les demandes. Puis d'ailleurs, les syndicats sont en permanent conflit d'intérêts parce qu'ils ont une partie de leurs membres qui payent les privilèges de l'autre. C'est pas assez mis sur le tapis. Ça fait plaisir d'en profiter pour le faire. Parmi les sympathiques demandes, outre salariale, pas ça, ben... on a fait tout.
Ben c'est ça, ben écoute, il y en a trop des d'autres qui demandent des contributions financées par les contribuables au Fonds de justice sociale de la FPC qui s'engage dans la défense d'une politique publique progressiste. Écoute, ils veulent vraiment qu'on garoche de l'argent dans toutes les directions. Ils veulent une prime de camp spéciale lorsque les membres travaillent après 16 heures. Donc en ce moment, s'il y a des fonctionnaires fédéraux qui nous écoutent, là, ben ils seraient plus payés juste parce qu'il est passé 16 heures. Donc essentiellement, vraiment, ils mettent un paquet d'ajustements. Il demande un paquet d'accommodements comme ça que tu dis, coudonc, où est-ce qu'ils ont été chercher toutes ces idées-là? Puis moi, j'en suis venu à une certaine conclusion. Tu sais, durant la pandémie, puis dans l'année qui a suivi, on a vu que le gouvernement fédéral, ça ne dérangeait pas de dépenser comme ça se peut pas. T'sais, on l'a vu avec Justin Trudeau, son dernier budget de 491 milliards de dépenses. Écoute, il a ajouté 500 milliards sur la dette du Canada en 2 ans. Et pendant ce temps-là, écoute, se sont accumulées des augmentations salariales à la Chambre des communes.
Depuis le début de la pandémie. Mais surtout, une augmentation du nombre de fonctionnaires de près de quoi? De 30 % en quelques années, en 3 ans.
Ben, oui, puis c'est ça, t'as rappelé une chose, tu sais. Parce que là, on a comme quasiment la moitié de la fonction publique fédérale qui s'en va en grève ou qui veut passer en grève parce qu'ils sont pas assez payés puis ils n'ont pas assez d'avantages. D'autre côté, on a un gouvernement qui a augmenté drastiquement les dépenses dans l'État fédéral, justement pour augmenter les services, augmenter les effectifs, puis généralement, on s'attend à ce que ça augmente la qualité, mais non, la qualité des services du gouvernement fédéral se sont pas améliorés, mais il est encore plus gros qu'avant, plus pesant qu'avant, et même les conditions de travail des salariés, même si dans certains cas, c'est gros dur. Ben, on voit aujourd'hui que même si on n'a jamais autant dépensé d'argent dans la fonction publique fédérale, ben, pour les syndicats, c'est pas assez.
Mais c'est un peu classique. Puis, tu sais, des syndicats, souvent, ils vont avoir carrément des demandes comme ça d'augmentation de la masse salariale. Tu sais, donnez-nous plus de contributions, autrement dit. C'est plutôt pathétique. Là, ils l'ont eu, puis ils voudraient le beurre et l'argent du beurre, puis probablement le beurrier, idéalement. Au point où, j'ai vu que la Banque du Canada est sortie pour dire « Pouvez-vous, s'il vous plaît, essayer de modérer un petit peu vos demandes salariales? » Puis je pognais à Radio-Canada en fin de semaine, à la radio, une entrevue complaisante avec justement le gars du syndicat par la suite pour réagir à ça. Ah, il n'y a aucune preuve que les salaires des jeunes de la fonction publique ont une incidence, quelle qu'elle soit, sur l'inflation. C'est ce qui drive l'inflation.
Ben voyons donc. Puis le pire, c'est que moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, là, on parle de début mars, quand le gouvernement de Legault allait déposer une baisse d'impôts dans son budget. Écoutez, à l'époque, là, on entendait même, à l'époque, ça fait un mois, il y a du monde qui disait carrément, ah, les baisses d'impôts, ça va alimenter l'inflation. Ah, les aides ponctuelles de 400 puis 600 $ là, que vous allez recevoir, ça va alimenter l'inflation, alors que rien de ça était vrai. Et oui, on pourrait s'imaginer que ça peut avoir un impact, mais tu me compares à une baisse d'impôts de 1,8 milliard. Là, tu avais des journalistes de Radio-Canada qui me parlaient d'inflation. Mais quand c'est le temps de parler des 500 milliards que le gouvernement Trudeau a ajouté à la dette dans les deux dernières années,
non,
les 150
pas.
Milliards qu'on dépense de plus par année, puis des dépenses de 491 milliards cette année par le gouvernement fédéral, ça fait aucune inflation, voyons donc.
Le plus significatif pour moi, c'est le 30 % de plus de fonctionnaires, parce que ça, c'est structurel. Tu peux pas t'en débarrasser comme ça. Tu sais, là, ils demandent une formation de 17 000 $ s'ils se font éclairer, mais ils se font jamais éclairer. Tu peux pas éclairer un fonctionnaire.
c'est comme s'ils se prenaient une assurance au cas où ce qui est impossible qu'il arrive. Ça n'a pas de sens. Puis en plus, c'est moi, ça m'amène aussi avec la question de Revenu Canada, parce que en ce moment, ils partent en grève, puis je pense qu'ils ont... Ils ont des doutes par rapport à leur avenir de leur côté. Parce qu'il y a des discussions de plus en plus à ce que les impôts puissent être faits de manière automatique. C'est-à-dire que ce soit plus fait, là, est-ce que c'est vous qui devez aller rencontrer un comptable, mais plutôt que c'est le gouvernement fédéral qui s'occupe de lui-même calculer pour vous les impôts que vous devez. Puis ouais, ben en tout cas, il y a un projet de pilote qui va être déployé depuis 2025.
Sérieusement? Qui amène ça? Le NPD?
Non, le gouvernement en place, le gouvernement fédéral de Saint-Trudeau. Ça surprend personne. Puis en 2025, tu as 2 millions de Canadiens qui vont être qui vont participer à ce projet pilote-là.
Pour vrai, là?
Mais l'affaire, c'est qu'en bout de ligne, c'est sûr que c'est épeurant d'un point de vue. Puis moi, je suis pas vraiment fan à l'idée que le gouvernement fasse mes impôts à ma place. Mais... D'un autre côté, si j'étais un employé de Revenu Canada, je commencerais à faire mon CV. Là, parce que ça veut dire que tranquillement, ça va être automatisé. Puis les 35 000 vont finir par peut-être être compromis. Okay. Mais ça, c'est la logique. Il n'y a rien qui garantit que ça va arriver pareil. Mais
mettons, Éric Kerr passe au fédéral, ça fonctionnera pas. S'il est en charge de mettre ça en place.
Honnêtement, si j'étais Revenu Canada, je lobbyerais pour envoyer Éric Kerr à Ottawa pour qu'il rentre au gouvernement de Justin Trudeau.
Les rapports d'impôts automatiques là, avec l'informatique. Ah ouais, il y est, Éric. On l'envoie là. De toute façon, avec deux, trois collègues, il y en a qui s'en viennent, mais c'est plus Parti conservateur. On y reviendra peut-être à eux autres dans le prochain point. Le prix du gaz appelé à augmenter fortement prochainement. Tu parles, tu sais, au Canada spécifiquement à cause des taxes carbone ici ou?
C'est sûr que là, les taxes carbone vont avoir une incidence au niveau canadien, mais sinon, au niveau québécois, on peut avoir aussi une incidence. Je dirais au niveau occidental, il va avoir un impact qui va tranquillement s'opérer. Puis ça vient de deux différents facteurs. Le premier, c'est que c'est un facteur sur lequel on n'a aucun contrôle, c'est qu'il y a un ralentissement de la production du pétrole de l'OPEP. En fait, là, littéralement, l'Arabie Saoudite a décidé de réduire de 500 000 barils par jour sa production globale, donc carrément 5 % de sa production là, va être réduite. Puis ça va avoir un impact nécessairement sur les stocks, les prix du baril, le prix du baril en général. Mais il y a un autre élément que bien du monde sont pas au courant, puis même moi, je n'étais pas au départ, c'est qu'on met de l'essence d'été puis on dans notre voiture l'été, puis on met de l'essence d'hiver dans nos voitures l'hiver.
Ah bon? Tu vois, moi, non.
Il y a effectivement un changement qui se fait dans les raffineries au niveau du traitement de l'essence, en fait, durant les différentes périodes, surtout quand ça arrive à la fin du printemps, début de l'été. Et c'est là que pourrait, en fait, être observée justement cette hausse cumulée entre les deux facteurs. Parce que le changement, ce qui se fait, c'est que l'hiver, l'essence qu'on met dans nos voitures, il contient beaucoup plus de butane, ce qui fait en sorte que les voitures, le moteur, il démarre plus rapidement, même dans les temps fous. Alors que dans l'essence d'été, il y a moins de butane, puis il y a plus d'alkylate. Ça, c'est des matériaux qui font partie là, essentiellement de l'essence premium. Fait que ça pour dire que c'est ces petites composantes comme ça dans l'essence qui font en sorte que le prix va augmenter d'entre 4 et 8 cents des gens partant. Mais on rajoute aussi le contexte de l'ONU, de l'OPEP.
L'OPEP, ça a été annoncé il y a une semaine. C'est la seule chose que je transige du pétrole brut, du Brent. J'ai vu jump, tu sais. Dans le graphique, il y avait un bout où t'as même plus de couleur.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tellement que ça a augmenté rapidement quand on a su ça. Là, ça semble se restabiliser, mais avec des bonnes annonces en termes d'inflation, reprise en Chine, etc., ça pourrait arriver à des barils à 90-92 piastres selon ce que je vois comme forecast présentement. Fait que ne pas penser que la stabilisation qu'il y a eu après l'annonce est garante de bons prix. Puis surtout, il y a toujours un gros gap pareil. C'est pas exactement parfaitement lié l'essence raffinée puis le pétrole brut. Tu viens de nous amener un aspect, tu vois, que moi, je ne connaissais même pas l'essence d'été. Ça veut dire ça, Chico, l'essence d'été, l'essence d'hiver? Je ne
connaissais pas ça tant, non?
J'en reviens pas. OK, le butane, puis tout ça. Mais ouais, faut prévoir ça. Est-ce qu'on aura un congé de taxes pour pallier à la patente? Assurément pas.
Non, assurément pas. Puis le pire, c'est que tu sais, il y a plusieurs autres mécanismes au Québec qui font en sorte que le prix va rester soit au même niveau ou rester ou simplement augmenter. Parce que nous, on sait qu'on a un paquet de taxes, on en a à peu près 5, puis on a la double taxation là-dessus. Mais on est aussi la seule province avec un prix plancher, en fait, sur le gaz. C'est-à-dire que vous avez la régie d'énergie qui force, en fait, carrément là, les essenceries à respecter un prix minimum à la pompe. Puis si jamais ils descendent d'aller en bas, ben ils décident d'aller en bas de tout ça, ben là, ils reçoivent une amende. Ben ça a l'air de rien. Mais savez-vous que juste l'année dernière, il y a 239 mises en demeure qui ont été distribuées par la Régie d'énergie aux essenceries du Québec parce qu'elles avaient laissé leur prix plus bas que ce qui était imposé par la Régie d'énergie. Donc, c'est juste pour vous donner une idée à quel point on a des mécanismes comme ça qui, même quand on espérait qu'il y ait une certaine compétitivité ou une concurrence plus saine entre les essenceries qui permettent aux gens comme vous et moi d'avoir des meilleurs prix à la pompe, ben la Régie d'énergie vient les punir. Donc, ouais. Déjà, il y a des mécanismes comme ça qui font en sorte qu'on sera jamais au même niveau que les autres. Mais oui, il y a des choses que les autres provinces ont faites qui seraient intéressantes de voir le goût imiter. Comme, tu sais, l'Ontario, eux autres, l'année dernière, ils ont décidé de suspendre leur taxe, de réduire leur taxe sur l'essence d'environ 5 cents. Puis, ils ont décidé de maintenir cette mesure-là pour un autre 6 mois. Mais, écoute, ils l'ont fait, la Terre-Neuve-Labrador l'a fait aussi. Puis, t'as même l'Alberta qui ont décidé de, ils avaient déjà suspendu leur taxe provinciale. Ouais. Ils ont décidé de maintenir ça pour l'année en cours. Donc,
c'est des malades tueurs de planète. C'est bien connu que les taxes, c'est bon pour l'environnement.
Ben oui.
C'est ça qui va sauver la planète. Mais en passant, j'ai vu Trudeau sur Twitter, je pense, en fin de semaine, qui annonçait, si vous avez reçu dans votre compte une somme pour dont vous vous demandez la provenance, c'est à cause de la taxe carbone, ça. Nous autres, on ne l'a pas au Québec. C'est un peu particulier de t'entendre dire qu'en plus, ils ont enlevé des taxes Alberta, Ontario. Je pense pas que la Terre-Neuve et Labrador étaient dans son petit laïus là, sur les sommes déposées dans le compte de certains Canadiens.
Non, puis déjà que c'est un gros mensonge parce que lui, il dit ça en rappelant que la taxe carbone fédérale, la manière que ça fonctionne, c'est que ceux qui en payent trop, qui ont des moins bons revenus, ben eux autres sont compensés avec ce qu'on appelle des rebates ou des rabais.
Ouais.
Sauf que c'est pas vraiment le cas. En fait, il y a justement un document qui a été publié par le directeur parlementaire du budget à Ottawa qui dit carrément que les Canadiens sont de plus en plus perdants. C'est-à-dire qu'ils payent de plus en plus cher pour la taxe carbone et que c'est faux de dire que c'est, à coût nul pour les gens qui sont moins nantis. En fait, là, 80% des Canadiens voient leurs factures augmenter.
C'est tellement simple. Prends-moi de l'argent, passe ça dans les mains de fonctionnaires puis redonne-moi ce qui reste. Il va en rester moins. Tu sais, c'est assez simple à catcher, mais trop compliqué pour Justin Trudeau.
Sais-tu qu'est-ce qui est le pire là-dedans? C'est de manière insidieuse, pendant que personne n'est au courant de tout ça, ils ont mis en place un mécanisme qui va rentrer en vigueur à partir de juillet. Puis ça aussi, ça pourrait avoir un impact sur nous, même si on n'est pas affecté par la taxe carbone fédérale. Ça s'appelle la nouvelle réglementation sur les énergies et sur les carburants. Ça, c'est cette nouvelle réglementation qui va vraiment toucher presque exclusivement les hydrocarbures et les raffineries. Puis ça les force à suivre des standards encore plus élevés sur le mode de production. Puis juste ça, à cause de ça, on va voir l'essence augmenter tranquillement de 3 et 5 cents de plus par litre d'essence si l'année prochaine. Ça rentre en vigueur en juillet, sauf que c'est pas une taxe qui nous est refilée à nous. C'est un peu comme la taxe carbone qu'on paye au Québec. On paye pas vraiment la taxe carbone au Québec. Elle est refilée aux pollueurs. Si eux nous la refilent à nous. Mm-hmm. Mais dans ce cas-ci, c'est à peu près le même procédé. C'est qu'on va pas charger une taxe carbone directement. On va passer par les raffineries. On va les forcer à augmenter encore plus leurs standards, alors que c'est les standards les plus élevés de la planète. Puis on va faire en sorte à l'esprit que ce soit refilé aux consommateurs. Mais ça, c'est les méthodes, les moyens de faire du gouvernement fédéral depuis 2015. Puis il n'y a pas grand-chose à faire avec ça, à part attendre la prochaine élection.
Mais c'est une chance qu'on a CBC, Radio-Canada, pour nous rapporter ce genre de pratiques-là. Ils sont tellement un chien de garde, un quatrième pouvoir efficace. Grâce à eux, on a pu apprendre ce que tu viens de nous livrer là à plusieurs occasions, comme c'est si scandaleux. Pas en tout, parce que c'est effectivement le cas. Ils sont, dans la majorité des occasions, carrément dans le camp des positions gouvernementales au fédéral. Ben, quand c'est du monde qui aime les financer généreusement, j'ai nommé des libéraux comme si c'était la vérité infuse que les positions de ce parti-là. Et ben oui, Pierre Poilievre a fait des complaintes, puis ça a été écouté en haut lieu chez Twitter.
Ben oui, puis ben là, malheureusement, vous ne pourrez plus vous informer auprès de Radio-Canada et CBC sur Twitter.
Oh. Parce
qu'ils ont décidé de suspendre leurs activités sur Twitter dans la dernière heure, ça a été annoncé.
Oh, je venais de le voir.
Mais non! Là, ils ont annoncé ça sur Twitter?
Non. Oui, c'est leur dernière annonce sur Twitter. Ben, moi, j'aimerais rappeler, en fait, en tout respect à Radio-Canada et CBC, que Twitter, c'est pas un aéroport. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre départ quand vous en allez. Et honnêtement, je veux dire, c'est bien respectable là, d'annoncer leur départ comme ça, en voulant dire, notre journalisme est impartial et indépendant. Puis, tu sais, je dis pas que tous leurs journalistes sont mauvais. Je pense qu'il y a beaucoup de bons journalistes. Mais la raison de leur départ est ridicule. La raison, c'est parce qu'ils ont reçu la mention sur leur compte médias financés par l'État, médias financés par le gouvernement, ce qui est une réalité.
Ben
Radio-Canada reçoit 1,2 milliard de dollars de l'argent des contribuables par année. Mm-hmm. C'est pas rien, là. Puis l'affaire, c'est qu'ils vont toujours se défendre en disant qu'ils reçoivent du revenu publicitaire, mais ça représente même pas 35% de leur revenu réel.
Je vais dire une bonne chose. Ils refusent des revenus publicitaires. Ils s'en foutent. Des petits joueurs. Exemple, moi, j'ai déjà essayé d'acheter. On daigne même pas me rappeler. On veut juste des grandes entreprises puis des oligopoles qui sont en mode automatisme pour leurs achats et qui sont en très belle collusion généralement avec des partis comme le Parti libéral. Fait que lâchez-moi le commercial. Puis de toute façon, tu sais, c'est de la concurrence déloyale du commercial mêlé avec autant de deniers publics, 1,2 milliard. C'est inimaginable pour un média, là.
Ben oui, c'est pas juste le fait qu'ils reçoivent de l'argent autant, c'est aussi le fait que leurs codes d'écoute sont en descente depuis quand même une bonne période.
Constant.
Je pense qu'ils n'ont jamais été aussi bas dans leur histoire, puis ils n'ont pas encore touché le fond, semblerait. Puis c'est de se dire que malgré tout, malgré le fait qu'ils ont des difficultés au niveau des codes d'écoute, ils ont augmenté leurs effectifs, ils se sont distribués
des bonnies.
5 millions de dollars en bonnies.
Des bonnies!
Alors, tu sais, quand t'es dans une entreprise qui va mal généralement, t'es pas supposé recevoir autant d'argent, t'es pas supposé distribuer autant d'argent à toi-même. Il est supposé avoir une genre de volonté à être structuré.
Le contraire, c'est ça. Tu fais de l'introspection, puis tu fais du ménage, mais non, on double down. Puis tu sais, parallèlement, mais une crise des médias, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un réseau de médias communautaires de 300 quelques, entre autres juste des stations de radio au Canada. Il y a des médias écrits de toutes sortes d'acabis qui peuvent faire un travail équivalent ou en tout cas, peut-être même alimenter Radio-Canada qui a des plateformes sur Internet. Ça prendrait un centième du financement par journaliste que ce que ça coûte à Radio-Canada. Et ça pourrait pallier énormément de choses. Mais non, il y a un entêtement ridicule du côté de, que ce soit les conservateurs ou les libéraux, de financer ça. C'est au Canada, 5 millions par année de financement des médias communautaires. 5 millions, c'est un budget de combien de milliards? 400?
Tu l'as dit tantôt? Les dernières dépenses, 491 milliards là, du gouvernement fédéral pour le budget 2023. Puis à là-dessus, c'est 1,2 milliard qui va effectivement à Radio-Can, puis le reste, les miettes, ça va aux petits médias. Mais malheureusement, c'est vraiment comme ça que c'est géré. Ça, c'est drôle parce que en plus, comme c'était pas assez, il y a à la mise à jour économique d'automne de Chrystia Freeland, elle avait annoncé un aide financière de pas loin de 20 millions supplémentaires à Radio-Canada pour les aider à fermer leurs livres pour l'année en cours. Puis alors qu'ils venaient de se distribuer 16 millions en bonus. Puis pendant ce temps-là, on annonçait que, entre autres, vous avez Post Media qui ont annoncé des mises à pied à National Post, à Montreal Gazette. Vous avez eu des mises à pied aussi à Bell Media.
Québécois.
Vous avez aussi des Québécois. C'est tous les médias privés à travers le pays en arrache. Puis t'as Radio-Can, puis eux autres, quand ça va mal, écoute, ils envoient une notice au gouvernement, puis on reçoit un chèque supplémentaire. Puis l'affaire, c'est que on peut accepter le fait que malgré le fait qu'ils reçoivent du financement du gouvernement, ils peuvent effectuer leurs journalistes de manière neutre et tout ça. Sauf que quand arrive le temps de discuter, par exemple, du financement de Radio-Canada, c'est là que la neutralité débarque. Parce que on s'entend-tu que si tu travailles chez Radio-Canada en ce moment puis t'apprends que le parti qui risque d'être au pouvoir aux prochaines élections veut couper ton financement et va possiblement affecter ta condition salariale et peut-être même ta job, comment tu fais pour traiter de ça de manière neutre? Il y a quand même une limite à la neutralité dans toutes les circonstances, même dans le journaliste.
Mais en fait,
le journaliste dépend du gouvernement puis donc de la bourse des contribuables.
Il y a cette apparence de conflit d'intérêts-là, mais l'objectivité, c'est une lubie intellectuelle. Ça n'existe pas. Tout le monde a des billets, puis ça va transparaître dans le traitement d'une nouvelle que tu vas avoir. La seule façon que tu peux contrer ça, c'est avec des processus établis ou, bon, peut-être une personnalité qui va s'assurer qu'il y ait une diversité de visions en nombre de personnes présentes dans la boîte. Ça n'a jamais été appliqué à Radio-Canada, CBC. Il y a toujours eu des billets. Ça a été des billets progressistes la majorité du temps, mais il y a eu des billets de d'autres façons, dans d'autres horizons au travers du temps aussi. Ils n'ont jamais été en mesure de contrer ces tendances-là. C'est le temps qu'on réalise que ça arrivera jamais puis qu'on fasse d'autres choses. Ça serait smart, je pense. Être Pierre Poilievre, tu fais juste transférer une partie de ces fonds-là. Tu peux complètement définancer CBC si tu veux, là, mais tu prends une partie de l'argent sauvé puis tu donnes ça aux radios communautaires ou à d'autres médias communautaires. Ce serait difficile à critiquer après ça pour bien des gens qui ont envie de déchirer leur chemise devant Petit Pierre Poilievre. Ça faisait le tour pour nous autres aujourd'hui. Nicolas Gagnon, ça a été riche et plein d'informations, plein de réflexions intéressantes. Merci beaucoup. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. C'est aussi prolifique, notamment sur Twitter. Moi, j'aime toujours me délecter de tes gazouillis. Merci, mon ami.
Ça fait plaisir. À la prochaine.
À la prochaine. Nicolas Gagnon, qui en avait d'autres à dire, mais là, je vois l'heure. Fait que on n'a pas le choix. On va parler d'environnement dans les prochaines minutes, mon Chico.
Yes.
Pas ça.
Ben, Nicolas m'a scoopé sur l'histoire de Twitter et que CBC et que Radcan se sont retirés. Alors, je me rabats sur une deuxième nouvelle, c'est-à-dire, nouvelle d'importance, tu te rappelles du succès marketing du Big Mac au poulet, mais du désastre au niveau de mes papilles gustatives?
Ouais.
Est-ce que c'était pas mangeable? Ouais. Eh ben, je te rassure parce qu'on fait des améliorations du côté de McDo. D'ailleurs, le corps de livre de dorénavant sera fait de viande fraîche et non congelée.
OK.
On a trouvé une nouvelle stratégie aussi.
Ils vont t'enlever les oignons crus dedans.
C'est pas mentionné. Ils vont trouver une façon aussi de mieux saisir la viande, de rendre ton fromage plus coulant.
Ah, moi, je veux pas.
Ben, c'est ce qu'ils vont faire. Et on va aussi augmenter un petit peu le nombre de sauces à Big Mac dans les Big Mac.
Ah, pour vrai, mais McDo, moi, de moins en moins, peut-être surtout ceux-là de la région. Je sais pas pourquoi. Il y a un petit quelque chose là. On parle de barbecue, justement, de barbecue écologique au retour avec Vicky Pedneau. Manquez pas ça, on part en publicité. Honorez nos commanditaires, s'il vous plaît, c'est important.
CJMD, Alternative Radio. Rive-Sud.
Talk rock et hip-hop.
Présentation de GSM. CJMD, c'est là que ça se passe.